Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs, nous sommes en février 2025 et vous écoutez une interview de Proxy Jeux réalisée lors du Festival International des Jeux de Cannes. Proxy Jeux, c'est le podcast qui vous parle des jeux de société. Je suis Elodie et je suis accompagnée de Benoît FX. Salut Benoît FX.
Salut Elodie.
Ça va toujours pour cette deuxième interview de la journée?
Ça va très bien.
À partir de maintenant, chose n'est pas coutume, nous allons passer à l'anglais pour échanger avec notre invité.
Nous sommes ravis d'accueillir Johan Go, auteur d'Autun, qui est nommé à l'As d'Or. Salut Johan.
Hey, bonjour, je suis Johan Go, créateur de jeux de Corée du Sud. Une, deux, trois co-auteurs de jeux Autun.
Eh bien, félicitations pour la nomination. Et comme on l'a dit, on va faire l'interview en anglais parce que ce sera plus simple pour toi pour développer, même si tu commences à parler plutôt très bien français.
Ok.
Et merci pour ces quelques mots.
Avant de plonger dans l'interview, nous avons quelques questions fil rouge que nous posons à tous nos invités pour se faire les jambes et pour mieux les connaître. Tu devras imaginer tes propres As d'Or. Est-ce que tu es prêt? Tu devras nous donner tes propres As d'Or et tes jeux favoris dans différentes catégories. D'après toi, quel est l'As d'Or pour s'amuser entre amis?
Pour m'amuser avec mes amis? Je pense que ça doit être un jeu très facile. Ça pourrait être un jeu pour boire. Ça marche pour moi. Je dirais Dixit.
Okay. Tu penses que Dixit est un jeu à boire?
Je pense que ça pourrait bien fonctionner avec de l'alcool.
Quel serait ton as d'or du jeu qui te fait le plus fumer le cerveau?
Qu'est-ce que tu veux dire par fumer le cerveau?
Un jeu où tu dois beaucoup réfléchir. Un jeu où tu dois te casser la tête et les neurones.
Through the ages.
Parfait.
Quel est ton as d'or du jeu auquel tu ne veux plus jamais rejouer?
Ça peut être un vieux jeu
auquel je ne veux plus jouer.
Oui.
Je dirais le Mahjong. Je ne comprends toujours pas comment ça se joue.
On a quelqu'un chez Proxy Jeux qui est sans doute le plus grand fan de Mahjong au monde. Donc peut-être que la prochaine fois, il pourra t'expliquer comment on joue. Quel serait ton as d'or du jeu auquel tu penses encore 3 jours après avoir joué?
Ça pourrait être Harmony. C'était un choc pour moi quand j'ai vu le jeu pour la première fois. Parce que j'ai vu le trailer des règles du jeu et je voulais immédiatement acheter le jeu. Je n'achète quasiment aucun jeu. Mais cette fois, je me suis dit que j'allais vraiment acheter le jeu. J'avais hâte de l'acheter.
Quel est ton as d'or du jeu le plus moche?
Le jeu le plus moche?
On nous cite souvent des jeux allemands, mais...
Je ne sais pas. Pour moi, s'il y a des meeples verts et rouges dans le jeu, pour moi, c'est nul.
Parce que tu es daltonien ou quelque chose comme ça?
Parce que je suis daltonien.
Oh, tu connais le mot français.
Et d'un coup, je joue à un jeu différent. Vous jouez à un jeu de stratégie, pour moi, c'est un jeu de mémoire.
Donc, tous les jeux qui ne sont pas adaptés aux daltoniens pour toi sont moches.
Je joue différemment.
Ok, merci. Ok, merci. Donc c'est la fin du fil rouge. Pour commencer l'interview, peux-tu nous en dire plus sur ton passé de joueur? Comment est-ce que tu as découvert les jeux de société et tout ce qui les entoure? Et quels sont tes premiers souvenirs autour des jeux de société?
Donc, j'ai commencé à jouer aux jeux dans mon pays, la Corée. J'avais environ 13 ou 14 ans au collège. Ma mère, elle a un institut de maths. Ce n'est pas l'école publique, mais un établissement privé. Ils utilisent les jeux de société dans un objectif éducatif. J'ai joué Rummikub, ou Jungle Speed.
Des jeux classiques.
Des jeux classiques. C'est comme ça que j'ai découvert les jeux de société. Et à un certain point, j'ai vraiment apprécié de jouer avec mes amis. Et c'est comme ça que j'ai décidé de devenir un auteur de jeux.
Qu'est-ce qui t'a donné l'étincelle pour devenir un auteur de jeux de société ? Concrètement, comment est-ce que tu es devenu un auteur de jeux de société ?
J'étais très jeune quand j'ai décidé de devenir un auteur.
Ok, ça a toujours été un objectif pour toi.
J'ai joué aux grands classiques et je me suis dit, ça a l'air d'être facile de faire ce genre de jeu facile. Donc je me suis dit, ok, peut-être que je peux.
Et à quel moment tu as franchi le pas ? À quel moment tu t'es dit, ok, maintenant, je vais faire mon premier jeu, je vais essayer quelque chose et je vais montrer ça à d'autres personnes ?
Je pense que j'avais 14 ou 15 ans quand j'ai sérieusement essayé de faire des jeux.
Ton premier jeu, donc ?
J'ai essayé de trouver des informations sur Internet. À ce moment, on était en 2010 ou 2009. Donc la plupart des informations venaient d'Allemagne. L'Allemagne était encore vraiment reconnue,
toujours
fort dans l'industrie du jeu de société.
Et donc tu as trouvé des choses sur Internet pour t'aider à commencer à créer quelque chose ?
J'ai carrément fait la recherche comment être un auteur de jeu, des choses comme ça. Et puis j'ai aussi envoyé des emails à des auteurs de jeux sur comment je peux être un auteur.
Et ils t'ont répondu ?
Oui. Comme Antoine Bouza à l'époque, il m'a répondu, j'étais très heureux de voir sa réponse.
Et est-ce qu'à ce moment-là, tu as déjà entendu parler d'autres auteurs coréens ? Parce que j'imagine que Gary Kim et peut-être d'autres avaient déjà publié des jeux.
C'était avant. Gary a commencé à publier ses jeux en 2010, 2012, quelque chose comme ça. C'était vraiment le début.
À peu près à la même époque que toi, du coup.
Et quel était ton premier jeu ?
Tu te souviens du tout premier que tu as créé ou pas ?
Oui, c'était horrible. Je peux vous expliquer une sorte de war game, quelque chose comme ça.
De toute façon, je pense que le premier jeu qu'on crée est toujours plus ou moins horrible. Mais quelles sont les étapes entre ce premier jeu que tu crées et ton premier jeu qui est publié ? Et surtout, combien tu as dû créer de jeux avant qu'il y en ait un qui soit publié ? Et pourquoi celui-là a été publié et pas les précédents ?
J'ai commencé à créer des jeux à la maison que je testais sur mon jeune frère.
Ça a été ton premier public, du coup ?
Et puis, j'ai trouvé que le jeu n'était pas assez amusant. Donc, j'ai continué à réfléchir. Comment pourrais-je l'améliorer ? Comment pourrais-je le rendre plus amusant ? Et une solution que j'ai trouvée était de trouver un gimmick sympa, du matériel particulier. Et donc, c'est comme ça que je suis arrivée à des solutions.
Est-ce qu'auteur de jeu est ton activité principale ou est-ce que tu as un boulot à côté ?
Je travaille seulement en tant qu'auteur de jeu. Cela fait 6 ou 7 ans.
Tu as beaucoup de jeux qui impliquent de manipuler des choses comme Fold It, Layers, Pin Circus et Gimbat avec Roberto Fraga. Est-ce que c'est quelque chose que tu aimes particulièrement et est-ce que tu peux nous parler de ça ?
C'est ce que j'aime, utiliser des gimmicks particuliers.
Et c'est souvent des jeux où on doit manipuler des objets avec les mains. Dans Fold It, par exemple, il faut qu'on plie un tissu. C'est vraiment quelque chose de spécifique dans ta création.
J'ai trouvé que c'était assez efficace quand j'ai essayé de trouver un éditeur, parce qu'ils peuvent comprendre la particularité du jeu immédiatement. C'est beaucoup plus facile que de leur présenter des jeux de cartes ou des jeux de plateau. Quand on leur présente un gimmick particulier, ils aiment ou détestent immédiatement.
Oui, et ils s'en souviennent.
Ça marque leur esprit en tout cas, pour le meilleur ou pour le pire. C'est une des raisons pour laquelle j'aime les gimmicks spéciaux. D'un autre côté, je ne suis pas doué pour l'abstraction. Donc pour moi, la règle doit être simple et intuitive. Sinon, j'aurais du mal à expliquer mon propre jeu.
Si je ne me trompe pas, depuis 2021, et je crois que le premier jeu était Show Me Your Sound, tu as créé, co-créé beaucoup de jeux avec Gary Kim et Hop Wong. Vous avez créé ensemble Cradle to Grave, Mind Map, Odin, This Bed is Mine. Comment est née cette Korean Connection avec deux auteurs qui sont plutôt connus en France? Enfin, je pense en tout cas que Gary Kim a fait pas mal de jeux qui ont fait parler d'eux en France. Peux-tu nous en dire un petit peu plus sur l'histoire de la création de votre groupe d'auteurs?
On se connaît depuis 10 ans et on a commencé à travailler ensemble pendant le Covid. J'ai passé un an en France en 2018 et j'ai découvert qu'il y a beaucoup de créateurs français qui travaillent ensemble. Et surtout, je vois Kaedama.
Donc l'équipe constituée d'Antoine Boza, Théo Rivière, Corentin Lebras et Ludovic Maublanc.
C'était très impressionnant de voir comment ils travaillent ensemble et à quel point ils sont efficaces. Quand je suis revenu en Corée, pendant le Covid, on se voyait chaque semaine. Et un jour, je leur ai proposé de faire des jeux ensemble.
Essayer de faire quelque chose ensemble.
On a essayé quelques jeux, était le premier. Et on a continué de travailler ensemble pendant quelques années. Et on trouve que ça fonctionne. Je ne mets pas toute mon énergie dans notre partenariat. Gary et Hop ne le font pas non plus. Ils ont aussi leur projet de leur côté. Mais le résultat, c'est plus que chacun d'entre nous. 1 + 1 + 1, ce n'est pas 3, mais 4 ou 5, ou même plus. C'est une des raisons pour laquelle on continue de travailler ensemble, et c'est juste comme ça que ça fonctionne.
Cette collaboration est à l'honneur cette année du fait qu'Odin est nommé à l'As d'Or. Was nominated for the Asdor's Prize. Félicitations.
Merci.
Est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'histoire du jeu?
On se rencontre tous les lundis chez Gary pour discuter des jeux. Et un jour, Gary a apporté le premier prototype d'Odin avec beaucoup de cartes et d'atouts. Il a dit qu'il voulait faire un jeu de plis. On a testé le jeu encore et encore, on a ajouté des idées et testé encore, on a changé des choses et testé encore, et c'est comme ça que nous avons développé le jeu. La différence, c'est qu'on a beaucoup appris en développant le jeu. Avant, on pensait que si on n'avait pas d'idées, on devait arrêter. On testait le jeu, l'un avait une idée, et le gars expliquait l'idée, et on en discutait si l'idée fonctionnait ou pas. Mais on a trouvé que c'était mieux de tester l'idée plutôt que de discuter de l'idée.
Du coup, directement tester le jeu, pas de discussion.
Exactement. On avait une idée, on testait, on peut faire autrement, on essayait autrement, et c'est comme ça que nous avons développé le jeu.
Chez nous, le jeu est publié chez Helvetic. Est-ce que c'est l'éditeur d'origine?
C'est le premier éditeur.
Comment vous en êtes venu à travailler avec un éditeur suisse ?
Chaque année, je vais à des conventions importantes comme Essen, Nuremberg, Cannes. Je les ai rencontrés à Nuremberg.
Si on l'a pas encore dit, on enregistre cette interview juste avant la cérémonie de l'As d'Or. Et tu es du coup le seul des trois auteurs d'Odin qui est présent à Cannes cette année. Tu vas peut-être du coup monter sur scène. Comment tu te sens ?
C'est mon rêve depuis longtemps. Je suis venu à Cannes en 2018 pour la première fois. J'ai vu la cérémonie et c'était déjà incroyable. Je voulais vraiment faire partie de la cérémonie et je suis vraiment heureux d'être nominé à l'As d'Or. Les gens me demandent si je suis stressé, mais je ne comprends pas la question. Je suis juste heureux d'être nominé.
Et donc, aucun stress. C'est bien parce qu'il y a beaucoup de gens pour ce genre de choses qui pourraient stresser. Toi, c'est que du bonheur.
Et des verres gratuits après la cérémonie.
Ok, je comprends mieux pourquoi tu n'es pas stressé du coup.
L'année dernière, ici, nous avons découvert Mind Map, qui est un jeu sorti chez Sorry We Are French et Funny Fox. C'est un jeu où le langage est très important. Est-ce qu'il a été développé en coréen et ensuite traduit en français ?
Ça fait longtemps, je ne me souviens pas exactement, mais je pense qu'on a commencé avec les versions coréennes et anglaises. Et quand j'ai présenté le jeu à Sorry We Are French et Funny Fox, je pense que c'était une version anglaise. Et ce qu'ils aimaient dans le jeu, c'était l'idée, pas les mots.
Du coup, si je comprends bien, c'est l'éditeur qui a fait le travail de traduire tous les mots en français, de trouver les mots qui fonctionnaient bien pour que le jeu fonctionne bien avec la langue française. Ok.
Merci à eux, parce que les mots originaux étaient super basiques, comme chat, chien.
Et il est peut-être maintenant temps de parler un petit peu du futur et de tes projets. Quels sont les jeux de Johan Go qu'on pourra découvrir dans le futur, et est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ?
Il y aura un nouveau jeu avec Roberto Fraga qui s'appelle Gimbap. C'est un jeu où on fait un plat coréen qui s'appelle Gimbap.
Et comment fonctionne le jeu ?
C'est un jeu de rapidité et dextérité. Tu lances les dés, il faut utiliser des ingrédients et compléter des recettes. Il faut faire ça plus rapidement que l'autre.
Je pense vraiment que vous êtes bien trouvé avec Roberto Fraga parce que c'est aussi quelqu'un qui aime jouer avec des gimmicks spécifiques, qui aime utiliser du matériel particulier, de la manipulation, etc. Vous formez un bon duo.
J'ai été chez lui quelques fois, et à chaque fois que je vais chez lui, je vois des choses folles. C'est littéralement partout.
C'est un endroit magique.
Est-ce que tu as des exemples ?
Il a...
Quel genre de choses folles on peut trouver ?
Il a son bureau à l'extérieur de sa maison, et quand vous y entrez, il y a un genre de gros tambour. C'est pas un tambour, plutôt un...
Un gong ?
Il a un grand gong dans son bureau. Je n'ai aucune idée de ce qu'il fait avec.
Peut-être que chaque fois qu'il a une idée, il tape sur le gong. Est-ce que tu veux partager autre chose ? Est-ce que tu as encore des surprises dans tes poches ? Je pense par exemple à des prototypes que tu pourrais avoir. Est-ce que tu en as amené avec toi sur le salon ? Est-ce que tu le montres à des éditeurs, par exemple ?
Oui. J'ai amené des prototypes de Nuremberg et ici à Cannes. Je suis toujours en train de chercher un éditeur.
Tu peux nous parler de ces jeux ?
Non, parce que je ne pense pas que ce jeu soit vraiment bon. Je suis un peu déçu, mais c'est OK.
Par rapport aux retours ?
À propos des retours, oui. Parce que personne n'aime vraiment le jeu. En tant qu'auteur, nous sommes habitué à être rejeté. Et pour moi, c'est totalement OK.
Oui, tu l'acceptes, tu te dis juste qu'il y a besoin de changer quelque chose dans le jeu, quoi.
Oui, ou en faire un autre.
Quand un de tes jeux est rejeté par un éditeur, est-ce que tu retravailles dessus? Ou est-ce que tu le mets de côté et tu passes au prochain?
Ça dépend. Par exemple, Odin a été rejeté plusieurs fois par des éditeurs, mais nous pensions qu'on pouvait l'améliorer. Donc nous avons travaillé dessus et nous avons réussi à le signer. Mais pour certains projets, si personne n'aime le jeu, alors on le jette. Mais on ne le jette pas vraiment, on le met plutôt de côté. Et un jour, une idée peut arriver.
Ouais, laissons juste le temps faire son boulot.
Fermentation.
Comme la fermentation. Comme pour le kimchi, quoi.
Ou comme la bière.
Ou comme la bière.
Et fromage aussi.
Fromage.
Ah,
fromage.
Ah, j'adore.
On a vu ça ce midi. On arrive à la fin. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Est-ce que tu veux faire passer un message?
Merci pour cette interview.
Merci à toi.
J'espère vraiment que tous ceux qui jouent à Odin avec leur famille, leurs amis, passent un bon moment. Et je suis très heureux de les voir jouer à nos jeux. Parce que pour moi, c'est notre raison de créer des jeux. C'est tout.
Merci beaucoup, Johan. Merci d'avoir pris le temps d'être venu nous voir, etc.
Et bonne chance pour ce soir.
Eh bien, rebonjour les joueuses, rebonjour les joueurs. C'est encore BenoFX et je suis toujours accompagné d'Elodie. Rebonjour Elodie.
Rebonjour BenoFX.
Et nous sommes du coup samedi. Alors, on avait reçu Johan du coup jeudi avant la cérémonie. Et en plaisantant un petit peu, on avait dit à Johan, bon bah si jamais tu gagnes l'As d'or, tu repasses nous voir pour nous dire un petit mot. Merci beaucoup Johan d'être revenu au micro de Proxy Jeux et de venir partager avec nous ton ressenti sur la cérémonie de l'As d'or. Alors Johan, est-ce que t'es heureux?
Oui, bien sûr, nous sommes très contents.
Après, oui, c'est difficile de croire.
C'est difficile de croire.
De réaliser.
Nous sommes très heureux. J'ai envoyé un message à mes co-auteurs. Ils étaient aussi très heureux.
Qu'est-ce que tu as ressenti quand, pendant la cérémonie, tu vois votre jeu qui apparaît comme vainqueur de l'As d'or sur le grand écran? Qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là?
Mon impression, je ne sais pas, les petits papiers, ça tombait comme une pluie.
De confetti, in French.
Confetti, ok.
Le confetti était vraiment magnifique. Et c'était pour nous, c'était une très bonne impression. Un très bon souvenir pour moi.
Et donc, tu as pu monter sur scène et faire un super discours, parce qu'il faut qu'on précise que ton éditeur helvétique n'avait absolument rien préparé en cas de victoire. Et toi, t'es arrivé et t'as dit « Moi, j'ai préparé quelque chose » et t'as fait un discours en français.
C'est tout moi, je ne peux pas m'empêcher de faire des blagues. Et je me dis « C'est le moment, je dois y aller. » C'était bien.
Comment vous avez célébré ça après la cérémonie?
On a bu.
Avec modération.
Pas trop. Juste la moitié de la bouteille de champagne pour moi. Et ensuite, on est allé à un autre bar et un deuxième bar pour continuer à fêter ça. Je ne sais pas. J'ai fini la soirée assez tard. Quand je suis revenu à l'hôtel, c'était déjà 2h du matin, quelque chose comme ça. Et on a un décalage horaire de 8 heures avec la Corée. À ce moment-là, il est 10 heures en Corée. Donc, je les ai appelés pour leur annoncer la nouvelle. Et bien sûr, j'étais sous à ce moment-là.
Et donc, quelle a été la réaction de Gary et de Hope Tu les as eus au téléphone ?
Ce sont des gars très réservés, ils étaient très calmes. Oui, c'est une bonne nouvelle. On doit travailler sur ça, comme ça.
Parce que si je me trompe pas, c'est le premier prix majeur pour chacun d'entre vous.
Je pense que c'est ça. Peut-être que
Ah oui, peut-être Gary. Avec le lièvre et la tortue.
Mais pour nous trois, en tant qu'équipe, c'est la première fois. Et ça veut dire beaucoup pour nous parce que j'ai toujours essayé de présenter nos jeux en France parce que le marché français est en train de grandir et je vois le potentiel du marché chaque fois que je viens à Cannes. Et je suis très motivée pour percer ce marché. Et ça fait presque 2 ou 3 ans depuis qu'on essaye d'atteindre le marché français. Et maintenant, on voit le résultat. Nous en sommes très heureux.
Tu nous as dit que c'était ton rêve de monter sur la scène du festival ?
Oui, c'était un rêve.
Maintenant, c'est fait.
Tu l'as réalisé.
C'est fait.
Et quel est ton prochain rêve ? Gagner le Spiel ou quelque chose comme ça ?
Pourquoi pas ?
Et est-ce que ça change quelque chose pour toi ? Est-ce que tu penses que ça va être plus facile d'avoir des contacts avec les éditeurs, par exemple ? Ou est-ce que ça va changer quelque chose dans ta carrière d'auteur de jeu ?
Ça va sans doute être un tournant pour notre carrière. C'est pourquoi nous devrons travailler dur quand je serai de retour en Corée.
Quand est-ce que tu repars en Corée ?
Lundi.
Et est-ce que vous avez déjà programmé quelque chose avec Gary et Hope quand tu vas retourner en Corée pour fêter ça un petit peu ? Ou pas encore ?
Il y a tellement de gens avec qui je veux fêter ça. D'abord, je vais ramener le prix et le champagne chez Gary pour le boire. Ma famille et mes amis aussi, ceux que je connais depuis des années. Je veux vraiment fêter ça avec eux. Et pas seulement les amis que je connais, mais aussi les éditeurs que je connais en Corée. Nous travaillons ensemble depuis des années et ils savent que c'est une chose incroyable dans l'industrie du jeu de société coréen. C'est une grande nouvelle pour nous. Je voudrais vraiment célébrer ça avec d'autres éditeurs en Corée.
Est-ce qu'Odin a été publié en Corée ?
Oui. Il a été publié il y a quelques mois par la branche coréenne d'Asmodée.
Ça va être une sacrée pub en Corée, du coup.
J'espère.
D'ailleurs, est-ce que le prix de l'As d'Or est connu en Corée ?
Oui, quelques personnes connaissent le prix.
Encore une fois, merci beaucoup d'être revenu au micro de Proxy Jeux, Johan. C'était vraiment un plaisir. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Tu as le mot de la fin.
Comme je l'ai dit dans mon discours, nous allons continuer à faire de bons jeux ensemble. Merci.
Merci.
Chères auditrices, chers auditeurs, si cette interview vous a plu, partagez-la sur vos réseaux sociaux favoris. Vous pouvez également nous aider en nous faisant un don. Pour cela, vous trouverez toutes les informations utiles sur la page d'accueil de notre site podcast.proxy-jeux.fr, proxy avec un i et jeu avec un x. On se retrouve très vite sur Proxy Jeux pour une autre interview ou un autre format. À bientôt et surtout,
jouez bien.